On va revenir sur le bilan de la COVID, 871 nouveaux cas qui sont répertoriés aujourd'hui. Le nombre d'hospitalisations qui est en hausse de 27 par rapport à la veille. On enregistre 34 nouveaux décès, donc 5 qui seraient survenus dans les 24 dernières heures et 25 attribuables à la période entre le 27 octobre et le 1er novembre. On va tenter de décortiquer les tendances, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit en déduire avec Patrick Derry, qui est analyste en politique publique. Salut Patrick!
Bonjour messieurs!
Alors, tendance, est-ce qu'il y en a une qui se dégage? On voit que le chiffre demeure encore autour des 1000, mais évidemment, on a un intérêt particulier pour la répartition régionale. Je pense entre autres à une région comme celle de Québec ou de Chaudière-Appalaches, où on voit qu'il y a des chiffres qui sont quand même de façon significative à la baisse. Comment t'interprètes les tendances actuelles?
Oui, c'est ça. C'est sûr qu'une moyenne, tu sais, c'est un pied dans l'eau chaude puis un pied dans l'eau froide. En moyenne, c'est tiède, mais ça ne veut pas dire que tu es confortable. Donc, le Québec, on voit effectivement une stabilité depuis quelques semaines. Le chiffre d'aujourd'hui, qui est un petit peu plus bas, faut se rappeler que c'est en réalité, c'est le nombre de cas rapportés hier. Donc, c'est les chiffres de dimanche, puis la fin de semaine, on teste moins. À Québec, par contre, on voit vraiment une baisse qui est très, très, très prononcée. Écoute, il y a même pas une dizaine de jours, on était encore au-dessus de 200 cas par million d'habitants. En moyenne, et là, on est rendu tout près de 100 cas par million, donc ça, c'est quand même une assez bonne nouvelle. Il y a un phénomène un peu semblable qui se produit dans Chaudière-Appalaches, là, dans un moindre degré, qui était frappé durement, qui est en train de baisser. Par contre, il y a d'autres régions où ça monte en flèche, le Saguenay et la Naudière, notamment. Là, le Saguenay, c'est encore une région qui était dans le vert, là, il n'y a pas si longtemps, à peine plus d'un mois. Puis là, ils sont rendus au-dessus de 200 cas par million. La Naudière, ça monte beaucoup. La Gaspésie, bon, c'est un peu moins peuplé, puis c'est des éclosions qui sont quand même locales, mais c'est encore très, très haut. Fait que, bref, la tendance générale, c'est que c'est stable. Ça semble aussi, la bonne nouvelle, c'est que c'est une vraie stabilité, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, c'était stable, mais sauf que le taux de positifs continue à augmenter, donc le nombre de tests positifs sur le nombre de tests total, lui, est en croissance. Mais comme on testait moins, ça paraissait pas. Fait que c'était une stabilité qui était de surface. Si on avait maintenu le même nombre de tests, on aurait probablement vu une légère hausse. Tandis que là, ben, le nombre de tests est stable depuis 10 jours, 2 semaines, puis le nombre de cas est stable aussi. La grosse nouvelle, par contre, c'est les décès. Là, 34 décès, là, ça faisait... j'ai regardé, là, la dernière fois qu'on a eu ça, c'était le 20 juin. Ouais. Un total aussi élevé, fait que ça, c'est très élevé.
L'impression que ça laisse, Patrick, je sais que c'est pas toi qui es responsable des décisions gouvernementales, évidemment, mais tu sais, quand je regarde, je reviens au chiffre de la région de Québec.
J'aimerais ça des fois.
Ouais, je sais. Mais tu sais, baisse très, très prononcée si on prend la région de Québec. L'impression que ça laisse, c'est que c'est pas mal plus facile de passer du orange au rouge que de redescendre du rouge au orange aussi dans la prise de décision, là.
Oui, puis oui, absolument. Puis c'est normal. Ben d'abord, il y a une chose, c'est qu'on a pris trop de temps, moi, je pense, à aller au rouge, c'est-à-dire on avait un seuil d'alerte à 20 cas par million, là, où il fallait pas nécessairement tout fermer, mais peut-être faire un peu plus attention. Après ça, on a dépassé les 60 cas par million, qui était la zone orange. Et essentiellement, ça n'a pas changé grand-chose. On a regardé ça monter encore. Puis là, quand c'était rendu à 100 cas par million, on dit OK, parfait, c'est vrai, faut qu'on fasse quelque chose. Fait que donc, oui, puis évidemment, une pandémie, c'est une progression, c'est exponentiel, c'est que ça peut monter très vite. Là, c'est sûr que ça redescend statistiquement un petit peu moins vite. L'autre chose, c'est que même quand ça va avoir descendu, tu sais, on peut pas se dire, on atteint le seuil de la zone orange, hop, le parti recommence, parce que on risque de se ramasser très rapidement dans les problèmes. Il faut qu'on se rappelle que nos seuils, si on compare avec des pays, là, par exemple, en Asie, c'est la Corée, là, ils ont une 50 millions d'habitants. Eux, ils ont réagi autour de 200-300 cas sur une population de 50 millions. Nous autres, on a commencé à réagir un peu autour de 500, puis plus à 1000 sur une population de 8 millions.
Et justement, c'est intéressant, Patrick, de se comparer avec ce qui se fait ailleurs, notamment lorsqu'on parle du fameux testing. Et l'exemple de la Slovaquie est assez local, là, en termes de proactivité des autorités.
Oui, effectivement. On sait que l'Europe, de façon générale, est prise avec une deuxième vague vraiment très forte et même dans plusieurs pays beaucoup plus forte que ce qu'on connaît ici. Ça inclut des bons élèves. C'est-à-dire que la Slovaquie, là, c'est un des exemples en Europe avec la République tchèque lors de la première vague. Ils ont adopté le masque très, très tôt. Au début de l'été, il y avait, je pense que la Slovaquie, c'était autour de 100 morts pour une population d'à peu près 5 millions et demi d'habitants. Donc, ça allait très, très bien. Et là, ils ont fait ce que tout le monde a fait en Europe. Ils ont baissé leur garde et ça a commencé à remonter. Et ce qu'ils ont décidé, c'est, on veut que ça arrête là. Donc, ils ont décidé de tester toute la population adulte du Québec, de leur pays, de la Slovaquie. C'est donc trois. Donc, ils ont testé samedi, ils ont testé la moitié de la population, et dimanche, ils ont testé l'autre moitié de la population, et ils recommencent en fin de semaine.
Wow! Ouais.
Fait que ça frappe l'imagination. C'est faut le voir un peu. C'est une opération qui est un peu comme une élection, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des milliers de bureaux de vote à travers le pays, il y a des milliers de sites de tests à travers le pays. On a eu, évidemment, on a mobilisé le personnel médical, on a mobilisé les militaires aussi. Le dépistage n'est pas obligatoire. Par contre, si vous voulez pas vous faire tester, ben vous restez chez vous deux semaines. Et si vous voulez sortir, il faut avoir en main une preuve qu'on a été testé, sinon c'est une amende assez lourde de 1 600 €, donc autour de 2 000 $. Fait qu'on a vraiment décidé de mettre le couvercle sur l'épidémie là-bas.
Là, il y a l'Allemagne qui a annoncé un reconfinement pour un mois. Là. Ça s'ajoute à une longue liste là, en Europe. Là.
Oui, on a vraiment des problèmes en Europe. Puis ce qui est intéressant, c'est l'Allemagne aussi, là, ils ont eu beaucoup de cas lors de la première vague, mais c'est un pays qui a été quand même moins touché sur les décès, autour de 9 à 10 000 décès. Donc, pas beaucoup plus que le Québec pour un pays de quand même 10 fois plus peuplé. Mais il y avait une réunion à huis clos sur la fin de la semaine dernière avec Mme Merkel et tous les autres dirigeants des pays européens. Puis il y a un avertissement, ou en tout cas un constat de fait que Mme Merkel a fait, que j'ai trouvé assez intéressant. En gros, ce qu'elle a dit, c'est que les réalités politiques ont empêché les dirigeants d'imposer des restrictions plus tôt. Et on devra tirer les leçons de la situation actuelle pour agir plus vite dans le futur. Et c'est un constat qui est assez dur, mais ça correspond à ce qu'on voit, par exemple, en France, où en France, on avait un système de paliers. On avait une zone rouge, par exemple, et au-delà de laquelle il devait y avoir certaines restrictions. Mais quand on a atteint ça, on a créé une zone écarlate ou super rouge pour repousser les restrictions. Fait que, c'est frappant parce que ça ressemble quand même à ce qu'on a vu ici, même si on a une situation qui est moins pire, c'est-à-dire qu'on avait un système de paliers, mais on a attendu très tard pour appliquer les restrictions qui étaient dans le système de paliers. Tandis que les pays d'Asie du Sud-Est et d'Asie de l'Est, eux, ils n'ont pas eu ce problème. Là, la Chine, la Corée, Taïwan, le Vietnam, mais la Nouvelle-Zélande et l'Australie, là-dedans, il n'y a pas juste des dictatures, il y a des démocraties. Le point commun, c'est qu'ils ont agi tôt. Ça fait mal quand même, mais ça fait mal moins longtemps. Et ben les cinémas sont ouverts en Chine.
Il nous reste 2 minutes, Patrick, juste avant qu'on se laisse. Donc, les modèles tendent à démontrer que les mesures de confinement, de restriction des déplacements, etc., sont efficaces, particulièrement si elles le sont appliquées tôt. C'est ce que tu nous illustres. Mais encore une fois, qu'en est-il de la Suède, là? On en est rendu où en Suède? Je sais qu'il y a des gens qui vont nous ramener cet exemple-là. Ça ressemble à quoi, la situation en ce moment, là-bas?
Écoute, j'ai pas regardé ce matin, mais le gouvernement a commencé à regarder ces derniers jours pour peut-être prendre d'autres mesures. Moi, dans les comparaisons, parce que ils ont un nombre de cas qui augmente là-bas aussi, puis un nombre de cas de décès qui augmente aussi. Moi, quand on regarde la Suède, j'ai toujours un problème à comparer directement le Québec et la Suède parce que c'est deux échecs pour des raisons qui sont différentes. J'aime mieux comparer le Québec avec nos États voisins, nos provinces voisines qui ont des systèmes de santé semblables, puis des conditions semblables, puis des conditions dans lesquelles l'épidémie est arrivée. Puis c'est l'Ontario, là, c'est l'autre bord d'une rivière, là. Puis même si on était frappé durement, c'était moins qu'ici. La Suède, quand tu regardes avec la Finlande et la Norvège, là, le contraste est saisissant. Ils sont même pas dans le même ordre de grandeur, donc j'ai bien de la misère à voir un succès dans le nombre de morts qu'ils ont eu, là, qui est dans le même ordre de grandeur que nous autres, là, autour de 5 000-6 000, là, alors que chez leurs voisins, c'est quelques centaines. Donc, ça me semble pas un succès durable. Puis c'était surtout basé sur l'immunité collective. Mais l'immunité collective, on le sait présentement, là, on n'est même pas proche dans aucun pays d'un seuil qui pourrait permettre de la garantir. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit très élevé alors qu'on est autour de peut-être, je sais pas, moins 8-10% peut-être de la population.
Puis les morts s'accumulent quand même, c'est ça. Ouais.
Les morts s'accumulent quand même. Puis en plus de ça, l'immunité collective, pour l'instant, ce qu'on en sait, c'est qu'elle serait pas durable. C'est-à-dire que quand tu as attrapé la COVID, tu peux ne pas l'attraper pendant 3-4-5 mois, mais il semble qu'après ça, tu peux commencer à la contracter de nouveau. Fait que ça donne pas grand-chose. C'est pas plaisant, mais on doit trouver des façons de contrôler, peut-être pas supprimer le virus, parce que c'est difficile, mais il faut qu'on le gère un petit peu mieux.
Merci, Patrick. On pourra peut-être revenir plus en détail sur l'exemple de la Suède dans une prochaine intervention. Merci.
Plaisir. Bonne journée.
Merci, Patrick Yedéry, qui est analyste en politique publique.
Deux échecs, mais pour des raisons différentes.
Pour des raisons différentes.
Parce qu'en Suède, le système est aussi débordé. Il y a des morts. puis ils développent pas plus l'immunité collective pour
c'est
vrai.
Il y a des gens qui disent, puis ça semble se matérialiser, que c'est vraiment au long cours. C'est dans quelques années qu'on sera jugé si la stratégie aura été efficace ou non. On s'arrête pour la pause de l'heure du lunch. Vous écoutez Trudeau Landry.